France Info.
En compagnie ce soir de Cécilia Gabizon de l'agence de médias ETX Magellan, François Reynard est là pour l'Obs et Patrice Moyon, chroniqueur et éditorialiste à Ouest France. François Reynard qui a écrit sur la Russie et ça va nous être précieux, la grande histoire de la Russie aux éditions Flammarion, et Patrice Moyon qui connaît bien l'Ukraine pour y être allé plusieurs fois ces derniers mois. C'est parfait donc pour ce débat, puisque l'Ukraine était au menu ce soir à l'Élysée où le président de la République recevait ses deux prédécesseurs, François Hollande à 18h, Nicolas Sarkozy qui vient de sortir au bout d'une heure d'entretien, en attendant demain les chefs de parti. Alors, le même Emmanuel Macron, on le sait, qui depuis Prague hier a appelé les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches, assumant l'hypothèse qu'il a évoquée la semaine dernière d'envoyer des troupes dans cette guerre. On va écouter ce que dit François Hollande à la sortie sur le perron de l'Élysée après une heure d'entretien. François Hollande, dans une petite seconde. François Hollande, qu'on écoutera dans une petite minute, qui est assez prudent à la sortie, prudent et sobre. On va l'écouter.
Vladimir Poutine, je l'ai hélas beaucoup rencontré. Il ne comprend que la force. Il veut impressionner. Et donc la seule réponse possible, c'est de montrer que nous sommes avec les Ukrainiens dans une totale solidarité, que nous leur apportons tout le soutien nécessaire, sans bien sûr nous-mêmes, et c'est ce qui doit nous conduire à être généreux, sans nous-mêmes participer à quelque combat que ce soit. Nous devons tous livrer plus. D'une manière générale, les Européens, ne pas simplement se délester du matériel qui n'est pas forcément le plus efficace. Donc c'est pas en quantité, c'est en qualité aussi qu'il faut mesurer l'aide que l'on doit être capable d'apporter à l'Ukraine.
Patrice Moyon, je me tourne vers vous. Je rebondis sur la dernière phrase de François Hollande, où il insiste sur fournir de l'aide de qualité. Ça veut dire quoi ?
Oui, de l'aide de qualité, parce qu'il faut quand même se souvenir que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, on a vidé les arsenaux en Europe, mais avec le vieux matériel. Alors, avec deux difficultés. Un, effectivement, c'était du matériel ancien. Et deux, l'armée ukrainienne s'est retrouvée avec des systèmes qui sont extrêmement différents. D'où une difficulté de maintenance, en fait, pour ces matériels différents. François Hollande a raison de dire que maintenant, il faut soutenir l'Ukraine, mais de façon efficace, c'est-à-dire avec de l'armement moderne. Il faut de l'accompagnement avec les techniciens. Il faut former les Ukrainiens. Donc, c'est tout ça auquel il faut penser maintenant.
C'est plus cher. Pourquoi ne le fait-on pas? Est-ce que c'est une façon de rebondir aussi sur ce que dit la ministre allemande des Affaires étrangères ces derniers jours, qui évoque l'envoi de missiles de longue portée, qui sont vraiment des armes redoutables, si on comprend bien, et je ne suis pas experte, mais la Russie, qui serait redoutable.
Vous savez que l'Allemagne, jusqu'à présent, a été très au frein, d'abord parce qu'elle avait faut quand même se souvenir qu'il y avait une relation très étroite avec la Russie. Elle ne voulait pas se fâcher avec la Russie. Et donc l'Allemagne a ces fameux missiles Taurus qui permettraient notamment de frapper le pont de Kerch, donc en Crimée. Donc là, il y a un enjeu pour les Ukrainiens de disposer d'armes qui leur permettant d'être vraiment efficaces par rapport aux Russes.
L'Allemagne, sur ce plan-là, est en train de changer de pied.
L'Allemagne
pourrait en tout cas être en train de bouger.
L'Allemagne hésite.
L'Allemagne a toujours un vieux complexe par rapport à la guerre extérieure à cause de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes, ils jouent là-dessus tout le temps, tous les jours. C'est Poutine qui se comporte comme Hitler, parce qu'il se comporte exactement comme Hitler, c'est-à-dire il essaie de choper toutes les régions qu'il peut autour de lui, et c'est lui qui accuse les Allemands d'être nazis, c'est surréaliste. Mais en tout cas, les Allemands, de fait, ont toujours ce vieux complexe. Ils en sortent un peu à la fois, heureusement. Par ailleurs, en France, moi je suis content des paroles que je viens d'entendre de François Hollande, ou que Macron solennise les choses, parce que c'est ce qu'il fait en recevant les anciens présidents de la République et les chefs de parti, parce que on le répète à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, mais les Français doivent comprendre que c'est pas une guerre étrangère, c'est une guerre qui nous concerne, nous, parce que Poutine, c'est un belliciste, c'est-à-dire que c'est un homme dont le moteur est la guerre. Il ne s'arrêtera pas. Il est en train d'ouvrir un second front en ce moment même, qui est en Moldavie, qui est un petit pays à côté de la Roumanie. Il y a une petite région qui est peuplée de russophones et qui est séparatiste, c'était la même chose que ce qu'il y avait dans le Donbass, des gens qui disent on veut être russe, etc. Et ben là, les agents russes sont en train de travailler travailler pour que la Transnistrie fasse sécession, etc. Alors là, il peut pas envahir parce qu'il n'y a pas de frontière directe. C'est ce qu'il espérait faire au départ. Hein. Il espérait contourner tout si les gens ont une carte devant les yeux, ce qu'ils n'auront pas. Mais s'il avait contourné tout le bas de l'Ukraine, il pouvait arriver jusqu'à la Moldavie. C'est pas le cas parce qu'il est bloqué. Mais en tout cas, il espère toujours ouvrir des seconds fronts. Et une fois qu'il l'espère,
il y en a même trois parce que il y a la Transnistrie et la Moldavie. Là aussi, il faudrait la carte. Mais
la Transnistrie, c'est dans la Moldavie. Et c'est une petite région qui appartient à la Moldavie, mais qui est des séparatistes. Et puis effectivement, les Baltes savent très bien, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, ils savent très bien que ce sera eux les suivants sur la carte. Et donc voilà, il faut qu'on soit prêt. Et heureusement que Macron solennise, et heureusement qu'on arrête de dire on va traiter avec Poutine, etc. On pourra jamais traiter avec Poutine.
Alors François Hollande dit aussi dans un autre extrait qu'on n'a pas entendu, mais que je vous cite, ma position en matière militaire, c'est moins on en dit, mieux on fait. Est-ce qu'il faut y voir une espèce de message quand même? Il dit il faut surtout ne rien dire à Poutine et bien dire à Zelensky qu'on est avec lui. Cécilia Gabizon, il y a un petit message à Emmanuel Macron là?
Là, c'est un peu tard, en tout cas sur la méthode, effectivement, Emmanuel Macron, parce que on peut être d'accord avec sa prise de position qui est c'est notre guerre. La guerre en Ukraine, c'est notre guerre. Même si c'est contesté par un certain nombre de pays, l'OTAN finalement. La question c'est, est-ce qu'on est vraiment menacé? Pas notre guerre, c'est, il y a la guerre des valeurs, il y a le fait que la Russie a agressé l'Ukraine, mais il y a aussi la question de, est-ce que nous sommes nous-mêmes menacés? Et en fait, il y a des positions variées en Europe. Macron lui-même a probablement changé d'avis parce que entre le moment où il voulait amadouer Poutine et puis maintenant, il a changé d'avis. Là, il fait des alliances un peu nouvelles quelque part avec les pays baltes qui eux se sentent très menacés. Qui eux se sentent très menacés parce qu'ils disent mais en fait la Russie ne s'arrêtera pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une défaite, c'était les mots d'Emmanuel Macron, une défaite de la Russie, ils ne s'arrêteront pas. Donc ils l'annoncent, mais finalement ils l'annoncent sans concertation européenne. Donc en fait ils brisent le front européen parce que du coup les Allemands se retirent, les Américains disent tout de suite non, on n'enverra pas de troupes. Donc en fait sur la méthode, ça a plutôt créé de la contradiction et de l'affaiblissement que du renforcement du camp, on va dire, de soutien à l'Ukraine.
Vous êtes d'accord, il parle peut-être trop, Emmanuel Macron, Patrice Royon ?
Il y a une double difficulté. Sans doute, Emmanuel Macron parle sans doute un peu trop, et surtout, il aurait dû s'appuyer sur ses alliés, notamment d'Europe centrale, pour faire porter ce message. Il dit qu'il faut être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Il a raison. Donc, il y a un électrochoc. Mais il ne faut pas le faire tout seul, sachant qu'en plus, la France n'est pas le pays qui aide le plus efficacement l'Ukraine. La France est plutôt en retard par rapport à la Pologne, par exemple. Donc, mais cet électrochoc, il peut servir quand même à quelque chose, c'est faire prendre conscience aux Européens que nous sommes bien en guerre. Aujourd'hui.
François-Alain.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La tradition diplomatique, enfin, il y en a deux. Hein. Soit il y a la tradition de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire je te dis pas, mais je suis capable de tout. Hein. Par exemple, l'exemple en géopolitique, c'est Israël qui veut pas dire si oui ou non elle a la bombe atomique. Donc ambiguïté stratégique. Ah, je l'ai peut-être, mais je l'ai peut-être pas. Mais comme ça, bon voilà. Ça c'est le. Et puis l'autre stratégie possible, c'est la stratégie du fou, c'est-à-dire je suis capable de tout. Hein. Je vais dans tous les sens et tu vois, voilà. Mais effectivement, alors là il est pas dans la stratégie du fou, Macron, hein, c'est plus raisonnable que ça quand même, mais en tout cas effectivement, comme le dit très justement Patrice Moyon, bien sûr qu'au bout du bout il y aura peut-être l'envoi de troupes, c'est toujours comme ça. Les guerres, c'est des escalades, hein. Mais effectivement, il aurait dû le faire avec d'autres. Il a la même chose au début de Israël et Gaza. Il était allé en Israël. Il avait pris une initiative tout seul. Elle est tombée immédiatement par terre. Je sais même plus ce que c'était. Tout le monde l'a oublié. Il voulait, réunir la force anti-Daesh. Mais c'est tombé à l'eau parce que ça, c'est son narcissisme qui le dépasse, hein. Il veut être tout seul au milieu de la pièce,
hein. 20h, 21h. France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On continue à parler de l'Ukraine et des initiatives d'Emmanuel Macron avec Patrice Moyon, éditorialiste à Ouest France, François Reinhardt, chroniqueur à l'Obs et auteur de La Grande Histoire de la Russie aux éditions Flammarion, et Cécilia Gabizon, vice-présidente et directrice éditoriale de l'agence de médias ETX Magellan. On s'interrogeait sur cette accélération d'Emmanuel Macron sur le dossier ukrainien. On parlait juste avant la pause de cette élection américaine qui est quand même qu'il a sans doute en vue aussi. Et c'est vrai que l'hypothèse d'un retour de Donald Trump au pouvoir change la donne, Cécilia Gabizon.
Parce que Donald Trump, Donald Trump a fait une allusion pour expliquer que finalement il ne serait pas sûr qu'il se mobiliserait avec l'OTAN si un pays de l'OTAN était attaqué.
C'est ça, il serait même sûr de pas nous défendre,
pas défendre les pays qui ne payent pas. S'il avait payé sa cotisation ou pas. Donc bon, quelque part, ça a semé évidemment une énorme inquiétude et ça a soulevé la question de a-t-on les moyens mais les moyens financiers? A-t-on les moyens d'intervenir si finalement les États-Unis, avec Trump, dans une possibilité où ils ont cette politique où ils se retirent quelque part d'une action de l'OTAN, a-t-on les moyens d'intervenir?
Vous parlez de la France, vous parlez de l'Europe, là?
De l'Europe. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une forme d'accélération aussi probablement d'Emmanuel Macron. Il y a à la fois les élections européennes, c'est aussi une façon de, à un moment donné, sortir des sujets français pour redonner une stature, valeur, vision européenne. Et c'est aussi les élections américaines qui font planer énormément de doutes sur la politique qui va pouvoir être menée pour défendre l'Ukraine.
Si Trump arrive, par malheur pour le monde entier, si Trump arrive au pouvoir, il va faire ce qu'il croit toujours faire très bien, c'est le deal. Ça veut dire, il fait pas de la géopolitique, il fait pas de la diplomatie, il va voir le type et comme s'il lui achetait une bagnole, quoi. Et il sort de la pièce en disant, c'est super, sa Mercedes, je lui ai acheté à 800 alors qu'il en voulait 1000. Alors qu'évidemment, il s'est complètement fait rouler. C'est-à-dire qu'il va faire ça avec Poutine. Déjà, il avait fait ça quand il était président. Je saurais plus quelle histoire. Il était avec Poutine dans une pièce en sortant, en disant, he's my great friend, en tapotant l'épaule, etc. C'était absolument grotesque. Donc ça veut dire que si Trump arrive au pouvoir, il va faire ce deal avec Poutine pour genre tu peux dépecer l'Ukraine, on s'en fout de l'Ukraine, on sait même pas où c'est. Voilà, ça c'est le l'américain dingo qu'il est. Et donc effectivement, il est évident que Macron a ça en tête, mais sauf que la seule solution pour contrebalancer ce problème-là, c'est qu'on soit unis entre Européens, on n'a pas d'autre solution. Donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure avec Patrice Moyon et Cécilia Gabuzon, il faut faire des choses unies entre Européens. Faut pas, c'est une évidence. Faut pas qu'on soit seul dans ce cauchemar.
Alors on l'a dit, il fait pas l'unanimité en Europe avec cette hypothèse évoquée comme ça d'intervention. Il fait pas non plus l'unanimité sur la scène intérieure. Alors on vous a concocté un petit résumé des dernières réactions, de plusieurs réactions. En tout cas, on va en écouter trois dans l'ordre de ces derniers jours, suite à l'idée d'une intervention militaire en Ukraine. D'abord pour les Républicains, Éric Ciotti, pour le Rassemblement National, Marine Le Pen, et pour les Insoumis, Manuel Bompard.
Sur des sujets aussi lourds de conséquences pour notre nation, pour l'Europe, il faut faire preuve de sérénité, de responsabilité, ne pas jouer avec les peurs.
Un président en état de siège qui croit pouvoir trouver le salut politique dans des postures guerrières qui ont stupéfié les Français. La France en est d'ailleurs sortie totalement isolée. L'ensemble des capitales, de Berlin à Washington, de Madrid à Stockholm, ont rejeté fermement cette annonce aussi fracassante que déraisonnable.
Je pense que la France doit jouer un rôle diplomatique majeur, beaucoup plus fort que le rôle qu'elle a joué aujourd'hui. Et pour ça, elle doit écarter toute hypothèse qui la rendrait co-belligérante de ce conflit.
Ça vous inspire quoi, Patrice Moyon? Est-ce qu'il y a aussi, dans la démarche d'Emmanuel Macron, une manière de débusquer les oppositions et évidemment de cibler le RN sur ce sujet de la Russie?
Alors, effectivement, de toute façon, faut pas oublier que ça y est, la campagne des élections européennes est lancée. Après, je disais tout à l'heure, il y a la volonté aussi de, c'est une forme d'électrochoc pour les Européens. Et je suis pas sûr, comme le prétend Marine Le Pen, qu'il y ait une unanimité contre. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé. Il y a un choc, ça crée de la réflexion, les Européens doivent travailler ensemble. Donc il y a, je serais plus nuancé hein, sur ce sujet.
François Reinhardt.
Par rapport au RN, donc le RN en principe était censé dire non, mais on n'est plus pour Moscou. Marine Le Pen, elle était chez Poutine il y a 4 ans ou 5 ans. Mais non, pas du tout. Je l'ai jamais vu. Il y a pas de problème, etc. Il y a un petit symptôme qui est quand même hallucinant, c'est que ce soir ou demain, je crois, il y a un débat, le premier débat public Sénat sur les européennes.
Dans quelques jours, la semaine prochaine.
Ah pardon. Oui. Et Jordan Bardella n'y va pas.
Absolument.
Et il envoie à sa place Thierry Mariani, qui est un député européen sortant du Rassemblement National, mais qui est par ailleurs l'homme de Moscou. Thierry Mariani, c'est un homme qui est payé, qui était un observateur dans les élections faites en Russie. Vous imaginez la liberté des élections faites en Russie. On a tous vu ce qui vient d'arriver au malheureux opposant Navalny qui est mort. Et Mariani, c'est quelqu'un qui va, oui, monsieur Poutine est un vrai démocrate. Et c'est lui qui va aller faire un débat pour défendre un parti qui prétend être sorti de Moscou. C'est surréaliste. C'est une gifle faite aux Français et à la France. Ce parti qui prétend défendre la France enfonce la France dans la soumission à Poutine. C'est hallucinant.
De toute façon, il y a une chose qui est, tous les pays européens sont en train de se réarmer. les budgets consacrés à l'armement, puisqu'il y a un fil rouge qui est aussi l'argent quelque part et les choix qui sont faits, les choix de politique, il y a du réarmement. Donc de la production, on consacre plus de moyens. Donc même si aujourd'hui, l'état du débat, c'est pas forcément... Effectivement, l'Europe, il y a des... ça a créé de la réflexion, des positions, des nouvelles alliances peut-être, mais tous les pays sont en train de se réarmer. C'est-à-dire que finalement, la possibilité du conflit armé, qui était quelque chose qui n'existait pas et qui n'existait plus dans les constances européennes et qui s'est réouvert avec l'Ukraine, cette guerre, notre guerre, en tout cas, elle est là.
Et quand tu as plaidé pour la diplomatie, comme le fait Emmanuel Bompard, on est dans un rapport de force. C'est-à-dire que Poutine ne comprend que le rapport de force. La diplomatie, aujourd'hui, ne fonctionnera que si, effectivement, Poutine recule. Mmh.
C'est aussi ce que plaidait hier sur cette antenne pour les communistes Léon Desfontaines, la tête de liste des prochaines européennes.